Voilà, on fait lecture. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 3. Nous lisons ensemble. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. » Suite à notre jeûne et prière de la semaine dernière, plus que jamais, Dieu nous invite à garder ce que nous avons reçu. On a passé 4 jours, des moments formidables, parce que c'est jamais le diable qui nous convie à un temps de jeûne et de prière. C'est jamais la chair, c'est certainement pas moi, c'est le Saint-Esprit. Et j'encourage eh bien, ceux qui, étant présents ou même eh bien, étant restés chez eux et dans cet esprit de prière, ont recherché le Seigneur, à pouvoir garder ce que vous avez reçu, parce que j'en suis convaincu, Dieu a entendu nos prières. Et Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Et pour cela, il nous invite à constamment monter vers lui sur la montagne sainte. S'il y avait un titre à donner, c'est celui que vous voyez derrière mon dos. Venez et montons à la montagne de l'Éternel. C'est ce que nous avons lu. Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Ésaïe, nous lance à tous une invitation solennelle. On la lit au verset 3. Venez et montons à la montagne de l'Éternel. Et avez-vous remarqué, tout juste après, Dieu nous en donne même les raisons. Il dit « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Et Dieu veut vraiment encore ce matin nous enseigner ses voies. On les a pas d'une manière naturelle. Il faut que par son Esprit Saint, sa parole puisse venir pénétrer au plus profond de nous-mêmes et nous enseigner les voies de Dieu. Et aussi que eh bien, nous marchions dans ces sentiers. C'est le désir du Seigneur. Et pour cela, il veut spirituellement nous élever jusque dans sa présence. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de montagne, bien, ça véhicule bien sûr toute une symbolique. Elle nous parle par exemple de la demeure de Dieu. Il y a un texte qui dit « Car Dieu habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ». Mais la montagne aussi eh bien, nous parle de la présence de Dieu. Et souvent dans la Bible, la montagne a été le moyen, a été le lieu privilégié que Dieu a utilisé pour rencontrer ses enfants, mais aussi pour les enseigner d'une manière particulière. Et je voudrais donc ce matin vous parler de 3 montagnes, juste 3 montagnes, sur lesquelles Dieu aimerait nous conduire, ou peut-être même nous ramener, afin que nous soyons nous aussi enseignés par lui. Est-ce que vous voulez les découvrir, ces 3 montagnes ? La première montagne que j'aimerais placer devant vos yeux et surtout devant vos cœurs, c'est la montagne où Dieu désire, évidemment, pourvoir à nos besoins. Et vous savez de qui je veux faire mention. Et pour cela, il faudrait qu'on lise Genèse chapitre 22, très rapidement, les 14 premiers versets. Genèse chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 14. Là encore, j'entends le bruit des feuilles. Alléluia. Emmenez vos Bibles. Emmenez vos Bibles le matin. On a même besoin à nos enfants et nos petits-enfants à apprendre que l'évangile de Jean ne se trouve pas dans l'Ancien Testament et que le livre de la Genèse ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Amenez vos Bibles. C'est tellement important. Genèse chapitre 22, du verset 1 à 14, on le lit ensemble. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mais mon père !» Et il répondit « Mais voici mon fils Isaac !» Et Isaac répondit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Et l'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen et Amen. C'est une histoire qui semble mal débuter pour notre ami Abraham, puisque Dieu l'éprouve. Dieu l'éprouve en lui demandant eh bien, de monter sur une montagne au pays de Morija, afin d'y sacrifier qui ? Eh bien, son fils, celui qu'il aime, Isaac. Isaac était, il faut replacer cette histoire dans son contexte, Isaac était eh bien, l'enfant chéri de la maison. Isaac était l'enfant miraculeux, car il est venu au monde eh bien, à quel moment ? Lorsque justement, eh bien, Sarah, l'épouse d'Abraham, était elle-même stérile et en plus était avancée en âge, tout comme d'ailleurs Abraham. Oui, c'était l'enfant miraculeux. Et voilà qu'au travers de cette épreuve, Dieu demande eh bien, à son serviteur de pouvoir offrir son fils en sacrifice. Mais remarquez une chose, c'est étonnant ce que Dieu demandait. Remarquez une chose, Abraham obéit à l'ordre de Dieu. Et lorsque Abraham s'acheminait vers eh bien, cette montagne, avez-vous remarqué qu'il a fallu plusieurs jours pour arriver à cette montagne et qu'il était seul à cheminer avec son fils ? Le petit garçon, je m'imagine Isaac, je ne sais pas quel âge il avait, posant cette question. « Papa, dis-moi, on a le feu, on a le bois, puisque tu l'as chargé sur mon dos, mais où se trouve l'Holocauste, le sacrifice ?» Et avez-vous remarqué ce que Abraham répondit à son fils ? Une parole, je pense, empreinte de sagesse. Une parole remplie de foi. Il va dire, Genèse chapitre 22 et le verset 8, on peut le lire, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et croyez-moi, ce n'était pas que des mots dans la bouche d'Abraham. Abraham croyait ce qu'il disait. Abraham connaissait Dieu. Et alors qu'il montait sur cette montagne pour y sacrifier son fils, il avait néanmoins la certitude que Dieu allait intervenir. Il ne savait pas comment, ni à quel moment, et de quelle manière Dieu allait intervenir. Il savait une chose, c'est que le Dieu Tout-Puissant, comme on l'a chanté, était en pouvoir, à bien de pouvoir intervenir d'une manière ou d'une autre. En fait, Abraham avait la foi. Je suis en face d'hommes et de femmes qui ont la foi. Je suis en face de croyants. Et nous avons besoin, pour avancer et aller de l'avant, à bien toujours manifester sa foi, notre foi, une foi personnelle, pas la foi du pasteur, pas la foi des anciens, pas la foi du conjoint, mais la foi personnelle que Dieu lui-même a déversée dans notre cœur et qui nous invite à pouvoir eh bien, renouveler, fortifier au travers de la lecture et de la prière, que Dieu soit béni. On le lit dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, ce qu'il est dit et qui confirme ce que je suis en train de vous dire. Abraham avait véritablement la foi. Hébreux chapitre 11, les versets 17 à 19 nous dit la chose suivante. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, ton fils sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et c'est ce qui s'est passé, mes amis. Vous savez ce qui s'est passé ? Il a lié son fils Isaac. Je ne sais pas si ça a été difficile. Mais il l'a fait quand même. Il a ligoté son fils et il était prêt à brandir ce couteau jusqu'au moment où, in extremis, par l'intermédiaire d'un ange, Dieu lui a demandé d'arrêter. Parce que Dieu avait vu, alléluia, que Abraham avait manifesté la foi. Et Dieu, à l'instant même, a pourvu. Abraham a juste le temps de se retourner et observer, constater là un bélier. Un bélier qui était retenu par les cornes, eh bien dans un buisson. Dieu pourvoit, mes amis. Et alors, à ce moment-là, je m'imagine Abraham qui était plein de joie, qui glorifiait le Seigneur. On peut l'imaginer en bondissant de joie, parce que son fils, alléluia, a été épargné. Et je crois qu'Isaac aussi a bondi de joie. C'est alors qu'Abraham voulut immortaliser cette expérience miraculeuse. Il voulait que son fils puisse être marqué par cette expérience, car il était quelque peu concerné. Il a voulu aussi que les générations futures puissent se souvenir que Dieu est l'Éternel qui pourvoit, mes amis, à tout, mais vraiment à tous nos besoins. Et ce même jour, Abraham baptisa le sommet de cette montagne de la manière suivante. Genèse chapitre 22, verset 14. C'était finalement l'enseignement, l'instruction qu'il avait reçue ce jour-là en montant sur la montagne. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah. J'irai, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et on peut le dire ce matin, oui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mon frère, ma sœur, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je ne suis pas en train de parler d'une montagne physique ou géographique, mais cette montagne spirituelle, là où Dieu est élevé, où chaque jour nous pouvons bien monter, alléluia, sur cette montagne. Il y a quelques remarques que nous pourrions faire de cette histoire. Si Abraham n'était pas monté sur cette montagne, si Abraham avait commencé à raisonner avec Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu me dis. » Avez-vous remarqué, Abraham n'a pas discuté avec l'ordre de Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Si Abraham n'était pas monté sur cette montagne, il n'aurait pas expérimenté ce qu'il a pu expérimenter avec Dieu. Et Abraham a su gravir cette montagne, tout simplement parce qu'il avait la foi. Et je crois que c'est pour nous un exemple et aussi un encouragement. Dieu nous dit ce matin, venez et montez avec foi sur ma montagne, là où je désire pourvoir à tous vos besoins. Quelquefois, on traîne bien des besoins année après année et refuser dans le nom de Jésus. Il y avait un chant qu'on a chanté bien souvent pendant ce temps de jeûne, fini le temps de reculer, de fléchir sous les assauts de l'adversaire. On n'est pas des mendiants spirituels, on est des fils et des filles du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Nous sommes sacrificateurs, un royaume, alléluia, de sacrificateurs. Et on a besoin de le réaliser. Venez et montez avec foi sur ma montagne, là où je désire pourvoir à vos besoins. Apportons-y nos besoins. Apportons-y nos aspirations. J'ai envie même de dire nos rêves. Apportons-y nos inquiétudes, nos souffrances et nos blessures. Vous savez, Dieu, il veut vraiment prendre soin de nous jour après jour. Quelquefois, les gens pensent que Dieu est avec eux lorsqu'ils rentrent dans un lieu de culte. Et ils finissent par venir au culte, pas de manière religieuse, pour recevoir leur dose. Mais quand on sort de cette salle, Dieu est encore avec nous. Il est avec nous, excusez-moi l'expression, pour faire les courses. Il est avec nous sous notre douche. Il est avec nous constamment lorsqu'on va au travail. Et nous pouvons converser avec lui. Et tout en cheminant avec lui, nous pouvons monter sur la montagne, nous élever. Alléluia, peut-être dans l'intimité de notre cœur. Oui, Dieu désire que nous nous confions en lui et que nous lui exposions nos besoins. Il y a peut-être un autre enseignement qu'on peut tirer de cette histoire. Et cet enseignement, je voudrais vous l'apporter sous forme d'une question. Mon frère, ma sœur, ce matin, quel est le sacrifice que Dieu te demande d'apporter sur sa montagne? Quelle est la personne, quelle est la chose qui te tient à cœur, qui te préoccupe et que tu dois apporter tout comme Abraham sur l'autel, sur la montagne de l'Éternel? Serait-ce peut-être à ton tour ton propre enfant, celui que tu aimes et qui te cause beaucoup de chagrin parce qu'il était dans la maison de Dieu, maintenant il n'est plus? Serait-ce peut-être à cause de ton conjoint qui, parce qu'il est inconverti, s'oppose farouchement à ta foi? Serait-ce ce matin l'injustice que tu as subie et qui te fait souffrir? Serait-ce peut-être les angoisses de ton cœur? Alors, mon frère, ma sœur, viens et monte sur la montagne de l'Éternel et confie à Dieu tout ce qui te préoccupe. Et alors, en retour, Dieu agira pour toi. En cette année 2018, Dieu agira pour toi. Vous savez, vous connaissez ce passage dans les psaumes, chapitre 37 et le verset 5. Il nous est dit la chose suivante. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et qu'est-ce qu'il fera le Seigneur? Il agira. Il y a des lois spirituelles, il y a des promesses que Dieu nous a laissées, et ça c'est l'une de ses promesses. Recommande mon frère, ma sœur, ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Alors tu auras juste le temps, tout comme Abraham, de te retourner et de constater qu'il y avait là déjà la réponse pour toi. On est tellement quelquefois omnibulé, fixé sur le problème, sur ce qui nous arrête, qu'on en oublie que derrière, Dieu a déjà prévu. Parce qu'on pourrait se poser la question, depuis combien de temps il était là, ce pauvre bélier? Esselé sur le sommet de cette montagne? Peut-être s'était-il égaré. On pourrait comme ça eh bien, nous imaginer toutes sortes de choses. Depuis combien de temps le bélier était-il retenu dans un buisson par les cornes? En fait, il ne faut pas chercher, pas chercher à comprendre. Dieu le Tout-Puissant est providentiel. Il arrive à conjuguer sa préscience avec son omniscience et préparer les choses même avant même que nous le lui demandions. C'est lui qui opère toutes choses. C'est lui qui connaît votre besoin. C'est lui qui connaît votre souci. Il nous demande simplement ce matin de monter vers lui avec foi, car Abraham a été finalement un exemple pour nous afin d'y trouver la provision divine pour nos vies. Amen et amen. Voulez-vous connaître la deuxième montagne? La deuxième montagne que j'aimerais vous partager, c'est la montagne où Dieu désire se révéler à nous. Je l'ai dit en introduction, Dieu, à plusieurs reprises, s'est révélé à des hommes en particulier. Et il a choisi, bien sûr, des lieux élevés tels que les montagnes pour se révéler au cœur des hommes. C'est, par exemple, sur une montagne que Moïse, à l'âge de 80 ans, a commencé à apprendre à connaître le Dieu de ses pères. C'est aussi à 80 ans parce qu'il était monté sur la montagne, qu'il a appris les projets, les plans, les desseins que Dieu avait pour lui. Et je comprends Moïse qui a dit, mais Seigneur, je ne peux pas, je ne sais pas parler, je ne sais pas ceci, parce que toujours les projets que Dieu a pour nous sont toujours plus grands que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et j'ai envie de le dire, j'ouvre et je ferme la parenthèse, si nous ne montons pas dans la présence de Dieu, parce que vous avez compris que la montagne, c'est ni plus ni moins, c'est la présence de Dieu, si nous ne montons pas sur la montagne de l'Éternel, dans la présence de Dieu, nous ne comprendrons pas vraiment là où Dieu veut nous conduire. Le Saint-Esprit, quand il est venu habiter nos vies, il a fait de nous des serviteurs de l'Éternel. Et quelquefois, les plans de Dieu, ils sont à nos yeux incompréhensibles, mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Et on a besoin de monter à la montagne de Dieu, tout comme Moïse. Pour toujours parler de Moïse, c'est à la montagne qu'il a reçu de Dieu les 10 commandements. 10 commandements pour lui, mais aussi pour tout le peuple. Rappelez-vous. Et puis c'est aussi sur une montagne que Moïse reçut les plans précis pour construire le tabernacle. On pourrait lire juste ce passage dans Exode chapitre 24. Exode chapitre 24 du verset 12 à 18. Je vous laisse le temps de chercher. J'aime bien entendre le bruit des feuilles. Ah, j'en entends moins cela. Exode chapitre 24 verset 12 à 18. Exode, c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Exode chapitre 24, versets 12 à 18. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron. » Et eux resteront avec vous. Si quelqu'un a indifférent, c'est à eux qu'ils s'adresseront. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne tenez-vous bien, 40 jours et 40 nuits. Pas besoin de chasser, pas besoin de manger, ni boire. Vous savez, dans la présence de Dieu, on a tout ce dont on a besoin. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans ces moments, eh bien, Dieu a communiqué à Moïse également tous les plans précis pour la construction du tabernacle dans le désert. J'ai regardé pas moins de 6 fois Moïse, avec un grand courage, est monté vers Dieu. Il l'a fait finalement plus de 6 fois. Il a fait ce va-et-vient. Vous savez, la montagne nous parle aussi d'effort. Et on voudrait eh bien, peut-être avoir les bénédictions sans fournir un effort. Et c'est là où on se trompe. Avez-vous entendu tout à l'heure le don spirituel ? On entend, mais quelquefois on oublie. On laisse même eh bien, l'ennemi venir tel un corbeau, venir picorer la semence. Pourtant, Dieu parle. Et il nous invite à pouvoir faire un effort bien sûr, eh bien, par la foi, et saisir toutes les paroles que Dieu veut nous accorder. Pratiquement tous les commentateurs de la Bible pensent que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Parce qu'ils sont tous d'accord pour dire que pendant tout ce temps qu'il a passé sur les sommets des montagnes avec Dieu, Dieu a eu le temps eh bien, de lui expliquer le commencement de toutes choses. Lors du jeûne et prière, une sœur a eu à cœur de nous relire le passage où Jésus demanda à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Rappelez-vous de cette question que Jésus a posée. Il a d'abord posé aux disciples « Qui dit-on que je suis ?» Puis après, il s'est tourné vers ses disciples. Une autre dimension. « Qui dites-vous que je suis ?» Et c'est notre bon ami Pierre, et merci Seigneur pour Pierre, je chercherai à le voir dans le ciel. « Ah, c'est toi, c'est toi. » Rempli du Saint-Esprit, Pierre a exprimé la chose suivante. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est alors que Jésus a répondu à Pierre dans Matthieu chapitre 16 et le verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Frères et sœurs, je me rends compte qu'on a besoin pour avancer. Et plus les moments deviennent de plus en plus difficiles, on le sent, les choses s'accélèrent. Plus eh bien, le péché s'accroît dans ce monde, nous avons besoin plus que jamais eh bien, de recevoir nous-mêmes eh bien, pleinement des révélations et de connaître qui est Jésus. Je nous pose la question ce matin, au fait, qui est Jésus pour nous ? Qui est Jésus pour nous, au fait ? Oh, ne répondez pas. Plutôt, répondez dans votre cœur. Qui est Jésus pour nous ? Vous savez, cette réponse, elle est importante que nous puissions nous la poser. Parce que de cette réponse va découler, va conditionner toute notre marche, notre vie chrétienne, nos comportements, nos faits et gestes. Ce matin, qui est Jésus pour toi ? Est-il seulement ton sauveur ou est-il ton Seigneur ? Il y a des gens qui veulent Jésus comme sauveur, être délivré eh bien, du péché, mais ils ne le veulent pas comme Seigneur. Et on a besoin de reconnaître Jésus comme notre sauveur et notre Seigneur. Qui est Jésus pour toi ? Je crois que nous avons besoin d'avoir des révélations personnelles et plus profondes de qui est Jésus. La Bible dit que le principe même de la vie éternelle consiste à connaître qui est Dieu et celui que eh bien, Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ, Jésus-Christ son Fils. Moins d'une semaine plus tard, c'est Jésus qui conduit tout à nouveau Pierre et ses deux autres disciples, Jacques et Jean, eh bien, à pouvoir monter, et je précise, sur une haute montagne. On peut le lire dans Matthieu, chapitre 17, verset 1. Excusez-moi, je vous fais lire ce matin, mais prenez des notes et puis relisez tous ces passages. Je me tiens devant Dieu pour vous. Et je ne peux pas donner autre chose que la pensée que Dieu met sur mon cœur. Il est important de pouvoir relire ces choses. Car Dieu veut nous encourager à pouvoir monter, aller sous les hauteurs du pays, sous les hauteurs de la ville, et entendre la voix de Dieu, et après en redescendre pour savoir, alléluia, comment apporter le beau message de l'Évangile auprès de cette génération perverse et corrompue. Matthieu, chapitre 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, il prit Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Combien de temps il aura fallu pour monter cette haute montagne ? Il y a forcément là un prix à payer. Et puis aussi, ce qu'il faut souligner, et ce qui est aussi une vérité, c'est que sans révélation de la part de Dieu, l'homme il est errant, il est désœuvré. Avez-vous entendu le don spirituel disant ta vie est en désordre? Avec Dieu, tout peut s'arranger. Mais ce que tu as besoin de savoir, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Et quelquefois, on a besoin de révélation. C'est bien d'écouter la parole de Dieu, mais il faut aussi demander au Saint-Esprit que cette parole puisse, bien, oui, que nous la recevons avec notre intelligence, mais qu'elle descende 30 cm plus bas dans notre cœur, afin qu'elle puisse produire pleinement son fruit. Parce que la parole a le pouvoir, bien, un pouvoir de sanctification. Sans révélation de la part de Dieu, l'homme est errant et désœuvré. Regardez ce que dit Proverbes, chapitre 29, verset 18, ne le cherchez pas. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et il est précisé, heureux s'ils observent la loi. Le cadre que Dieu nous donne, c'est sa parole. Et il nous faut, eh bien, cette parole, la recevoir, peut-être dans l'intimité de notre chambre, et dire, mais Seigneur, apporte-moi la révélation. Qu'est-ce que je dois comprendre de ce petit texte, eh bien, que j'ai lu ce matin? Seigneur, donne-moi des nourritures toutes fraîches. Apporte-moi une révélation de qui tu es et de ce que je suis. On a un problème parmi les chrétiens, il y a une crise d'identité. Et ça, c'est dû aussi à cause des fausses doctrines qui circulent par-ci, par-là. Et on a besoin de revenir à la parole de Dieu pour que, eh bien, nous retrouvons l'image même de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre identité, vous allez la trouver dans la parole de Dieu. Et là, vous allez relever la tête. Et vous allez marcher avec assurance. Parce que comme un autre frère l'a lu pendant le temps de jeûne et de prière, à cause de l'amour de Dieu, rien ni personne ne pourra nous séparer de cet amour. Même pas la mort. Et quand on a réalisé ces choses, quand on a compris ces choses, on est inébranlable. Les gens peuvent se moquer de nous, les gens peuvent nous persécuter. La Bible dit d'ailleurs, heureux ceux qui sont persécutés, mais parce qu'ils auront une récompense aussi grande bien que les prophètes. C'est la parole qui doit revenir dans notre cœur. Cette parole que le Saint-Esprit veut rappeler dans notre cœur pour que nous soyons forts, bien lorsque l'ennemi va nous décocher des flèches. Parce que il ne faut pas qu'on se flatte. Je crois que 2018, il y aura certainement des flèches de l'ennemi. Pourquoi ? Parce qu'il voit qu'il y a des choses qui bougent dans l'église d'Istres. Il y a des choses qui bougent. Et excusez-moi, il faut parler personnellement, je veux bouger aussi. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, je ne veux ni reculer, ni faire du surplace. Il nous faut avancer, frères et sœurs. Et je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez le faire également. C'est donc dans l'intimité avec Dieu que ce Dieu, que ce dernier se propose de se révéler à nos cœurs. Par le biais de la prière, par le biais de la méditation, de la parole de Dieu, nous élever spirituellement, élever notre âme dans la présence de Dieu et permettre finalement au Seigneur de nous transformer. J'ai besoin d'être transformé par Dieu. Je suis en face de vous et je vous le dis sans crainte, j'ai mes défauts et je veux encore que le Seigneur puisse émonder mon cœur, mon âme. Je veux le ressembler. Il m'est arrivé même à des moments de chanter ce chant « Te ressembler » en pleurs. Voyant la laideur de mon péché, voyant encore que j'ai besoin de changer. Mais voyez-vous ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce matin, le Seigneur veut nous dire qu'en 2018, il veut davantage se révéler à nos cœurs. Mais cela ne se fera pas sans effort de notre part. Il nous faudra également monter sur la montagne de l'Éternel, là où Dieu veut nous révéler, alléluia, sa volonté, là où Dieu veut se révéler à nous, là où Dieu veut bien parler avec nous, là où il voudrait avoir une intimité, tout comme Moïse a eu une intimité avec Dieu, puisque la Bible nous dit que Moïse parlait à Dieu comme s'il parlait à un ami. Et Dieu parlait audiblement. C'est beau, et je veux vivre également ces choses. On va s'en arrêter là pour la deuxième montagne. Je veux conclure juste avec la troisième montagne. Troisième montagne, pour terminer, elle est par excellence la montagne où Dieu désire constamment nous conduire. Pour nous, chrétiens, cette montagne, nous la montons pratiquement chaque dimanche à travers le temps de Sainte-Seine. Cette montagne, vous l'avez compris, c'est le mont Golgotha. Cette montagne où Dieu nous sauve, où Dieu nous a sauvés, où Dieu accomplit toutes choses. Regardez juste ce simple verset dans Marc chapitre 15, verset 22, ce sera le dernier verset. Marc chapitre 15, verset 22. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Et en effet, pour ceux qui ont été en Israël, et plus particulièrement à Jérusalem, à l'extérieur de Jérusalem, il y a un monticule, une colline, qui est reconnue pour être Golgotha, le lieu où les soldats romains avaient l'habitude de crucifier les brigands. Mais c'est ce lieu également, il y a 2000 ans de cela, où Jésus-Christ lui-même a été mené, a été conduit sur ce mont, afin qu'il soit crucifié pour nos péchés entre deux brigands. Le mont Golgotha est le lieu où Dieu amena à son paroxysme l'amour qu'il avait pour chacun d'entre nous, l'amour qu'il avait pour l'humanité entière. Sur cette colline, Jésus a livré sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et voici par excellence la montagne sur laquelle Dieu voudrait nous rencontrer. La montagne de l'amour. La montagne où, comme un parfait substitut, Jésus-Christ a pris ma place, mais aussi votre place. C'est là où Jésus-Christ a vaincu le péché. C'est là où il a vaincu la mort. C'est là où il a détruit les œuvres du diable. C'est là où Jésus a pris tous nos péchés et toutes nos souffrances. C'est là où mon frère, ma sœur ou mon ami, il te délivre de tout ce qui peut te rendre captif. C'est là où Dieu veut commencer à sécher tes larmes. C'est là où Dieu veut t'apporter la consolation. C'est là où Dieu veut commencer à te parler. Le moment où, spirituellement parlé, on vous l'avait compris, il ne s'agit pas de prendre un billet et aller faire un pèlerinage en Israël. Mais tout simplement, spirituellement parlant, reconsidérer qu'il y a 2000 ans de cela, oui, sur cette colline, Jésus-Christ a pris ton péché. C'est sur ce mont que Dieu sauve les hommes de la perdition. Et toi, peut-être qui es là ce matin et qui ne connais pas le Seigneur, qui a besoin de te repentir de tes péchés, qui a besoin de te réconcilier avec Dieu, il te faut également monter sous cette montagne. Dieu t'y invite. Ne tarde pas, ne repousse pas au lendemain. Et toi qui veux donner ton cœur à Jésus, dis aujourd'hui même, Seigneur, je veux cette révélation, je veux apprendre à te connaître. Toi qui m'as aimé le premier, je veux savoir t'aimer en retour. Il faudrait juste terminer en disant, nous venons de voir trois montagnes que Dieu nous invite à gravir. Rappelez-moi, la première montagne, là où Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. La deuxième montagne, c'est là où Dieu veut nous apporter une plus grande révélation de qui il est. Et puis enfin, cette troisième et dernière montagne, où nous avons constamment besoin d'y monter. La montagne où Dieu est capable de nous sauver, de nous libérer. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Prions le Seigneur à cet instant. C'est indéniable, Seigneur, tu veux nous emmener plus loin. Tu veux nous donner à aller vers d'autres horizons. Et c'est sûr, tu vas nous y conduire, tout au moins avec ceux et celles qui le désirent, car tu ne forces personne. Mais Seigneur, je veux le croire, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous trouvons en toi un intérêt, c'est parce que nous voudrions nous attacher à toi, c'est parce que nous avons compris qui tu es, et nous voudrons être fin prêts parce que tu reviens bientôt. Et pour nous préparer à ce saint rendez-vous, tu nous as rappelé trois montagnes. Seigneur, fais-nous grâce, afin que tout au long de cette année 2018, nous puissions y monter et te rencontrer. À la vérité, tu es déjà sur le sommet de ces montagnes. Tu nous y attends, et pour certains depuis des années. Seigneur, je te prie dans ta grâce, aujourd'hui même, viens encore nous donner cette détermination, toi qui mets le vouloir et le faire, pour que nous puissions aller plus loin, pour que nous puissions prendre nos dispositions, afin qu'au quotidien nous puissions monter sur la montagne et découvrir encore tout ce que tu veux nous apporter. Seigneur, en ce matin, viens travailler nos cœurs, viens nous remplir de ton Esprit Saint, viens nous faire grâce. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, je voudrais juste te poser une question, mon frère, ma sœur, et peut-être toi, mon ami qui est là, ce matin. Dis-moi, sur quelle montagne tu as besoin de monter aujourd'hui? Est-ce que c'est la montagne? Là où Dieu se propose de pourvoir à tous tes besoins? Aujourd'hui même, Dieu t'y invite. Serait-ce la montagne où Dieu veut davantage se révéler à toi? Car maintenant, nous voyons le Seigneur couronné de gloire et d'honneur. Je disais tout à l'heure, je citais ce passage, « Mon œuvre et pour le roi. Tout ce que nous le faisons pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et nous devons constamment avoir devant nous la révélation de qui est Jésus. La Bible dit, tout genou fléchira devant lui. Et je veux apprendre, à cause de tes révélations, Seigneur, à déjà, dès à présent, fléchir le genou devant toi.